Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Le président nigérian Muhammadu Buhari sera reçu aujourd'hui par son homologue américain Donald Trump pour une visite axée essentiellement sur les problèmes de sécurité et d'économie. Les précisions avec Idriss Fall.
Le président Muhammadu Buhari sera le premier leader africain reçu à la Maison-Blanche sous l'administration Trump. Les discussions entre les deux hommes porteront sur la lutte contre le terrorisme, l'insécurité, le développement économique et démocratique au Nigeria. Peu après son arrivée au pouvoir en 2015, M. Buhari avait reproché au président Barack Obama d'avoir refusé de vendre des armes à Abuja pour lutter contre Boko Haram. Prenant le contre-pied, l'administration Trump a autorisé la vente au Nigeria d'avions Super Tucano d'une valeur de 496 millions de dollars, des appareils de surveillance et de soutien tactique qui doivent être livrés en 2020. Aussi, M. Buhari, 75 ans, qui cherche à être réélu à la présidence en février 2019, va sans doute souligner son engagement envers la démocratie dans son pays.
Au Niger, intensification de la crise scolaire et universitaire. Du fait de la persistance de la grève illimitée des élèves et étudiants pour exiger de meilleures conditions de vie et d'études, le gouvernement nigérien menace maintenant de fermer les cités et restaurants des universités publiques du pays ce lundi. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
C'est un communiqué sous forme d'ultimatum que le gouvernement a rendu public alors que le mot d'ordre de grève illimitée lancé par la structure nationale des scolaires se poursuit. Si ce lundi à 17h temps universel, les étudiants ne reprennent pas les cours, les cités et restaurants des 8 universités publiques du pays seront fermés. En réponse à cette intention annoncée, la structure nationale des scolaires a demandé à tous les élèves candidats au brevet d'études du premier cycle de boycotter les épreuves sportives de cet examen qui débute ce lundi, signe de la radicalisation des positions de part et d'autre, alors que plusieurs voix s'élèvent, les parents d'élèves et étudiants notamment, pour appeler à un dialogue. Près de 250 scolaires ont été arrêtés depuis le début de ce bras de fer, dont les principales causes sont l'exigence des étudiants du paiement de leur bourse et la réhabilitation de 5 de leurs camarades exclus en mars dernier par le conseil de l'université. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA, Afrique.
Au Mali, une soixantaine de partis politiques et associations de l'opposition malienne ont formé dimanche à Bamako une coalition pour réaliser l'alternance et le changement lors de l'élection présidentielle du 29 juillet, après 5 ans de mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le manifeste signé à cette occasion par les participants qualifie cette alternance d'impérative de survie et de sécurité nationale. Parmi les membres de la nouvelle coalition, Soumala Cissé, chef du principal parti d'opposition, l'opposant Tiébile Dramé, ainsi que plusieurs candidats déclarés à l'élection présidentielle. Et toujours concernant les prochains scrutins dans le pays, le Mali dispose d'un fichier électoral fiable avec lequel les élections peuvent être organisées. Telle est la conviction du comité d'experts après 10 jours d'investigation de la base des données. Des conclusions partagées avec le Premier ministre et tous les acteurs intervenant dans le processus électoral. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Très contesté par la classe politique malienne, surtout l'opposition, le fichier électoral a été soumis à un examen minutieux du comité d'experts internationaux et nationaux. À la fin de leurs travaux de 10 jours, ils reconnaissent dans leurs conclusions que le fichier électoral du Mali est fiable. Dr Kamel Faka, expert OIF.
Nous pouvons dire clairement que ce fichier est bon. Franchement, par l'utilisation de l'AFIS, Automated Finger Inspection System, qu'on a au niveau du CETEDEC, risque d'avoir des doublons sur cette liste. On n'a presque pas constaté. Parce que je crois que si nous voyons ce qui est fait de bien, est-ce qu'il fallait dire quelque chose d'autre pour satisfaire aux gens? Nous avons fait des vérifications. On aurait pu ne pas nous permettre d'aller au CETEDEC. Nous y sommes allés. Nous avons procédé aux investigations. Et nous avons vu que ce système est bon. Est-ce qu'il ne fallait pas le dire?
Après l'audit du fichier, les conclusions des travaux effectués par les experts internationaux et les autres membres du comité d'audit composé d'experts nationaux ont été remises au Premier ministre, Mamadou Sérou Traoré, représentant de la société civile.
Je sais ce qui était dans la base du RAVEC qui sert à alimenter le fichier électoral. À partir également des travaux des commissions administratives, la DGE travaille sur ces deux éléments. Avec le croisement qu'il fait, ça lui permet d'établir une base de données qui peut avoir de petites erreurs, mais avec le CHER, on arrive à corriger les insuffisances. Ce matin, vous avez remarqué que par rapport au doublon, il y avait le doublon zéro, vous avez remarqué que tous les électeurs qui devraient figurer dans la base de données de la DGE figuraient en entier.
Les 10 jours de travaux d'audit de la base de données se sont déroulés à la délégation générale aux élections, sous la supervision de la CENI. Amadou Ba, président de la CENI.
Nous avons voulu, parce que c'est une forte attente de la classe politique notamment, pour se rassurer pour aller aux élections, avoir une base fiable pour les élections, c'est d'avoir le fichier électoral. Et nous avons dit au départ, c'était des questions sans tabou. Et nous avons assuré et nous avons mis tout en œuvre pour que toutes les requêtes des auditeurs soient suffisamment renseignées par les autorités en place. Et vous avez constaté, et on vous l'a dit, qu'il y a eu tous les auditeurs qui se sont déportés au niveau du CITEDEC. Parce que l'autre fichier électoral est arrimé et adossé au fichier CITEDEC, c'est-à-dire le renseignement d'état civil. C'est cette base de données qui donne des informations pour former le fichier.
Après l'audit du fichier électoral, la prochaine étape est la confection des cartes d'électeurs. Les travaux d'audit ont vu la participation des représentants de la classe politique, majorité et opposition, ainsi que la société civile. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Sommet sur le climat dimanche à Brazzaville. Une dizaine de chefs d'État présents à la réunion ont invité les bailleurs de fonds à tenir leurs promesses en finançant les projets de préservation du bassin du Congo. Ces leaders se sont aussi engagés dans un document à mener des politiques basées sur le développement durable. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Le sommet sur le climat qui s'est tenu hier à Brazzaville a débouché sur la signature d'un accord instituant désormais la Commission climat du bassin du Congo. La signature apposée par les chefs d'État prouve leur engagement à préserver le massif forestier du bassin du Congo. Pour le roi du Maroc, Mohamed VI, parrain des initiatives africaines à la suite de la COP22 de Marrakech, le défi écologique est devenu une priorité. Hôte du sommet, Denis Sassou Nguesso a invité les bailleurs de fonds internationaux à tenir leurs engagements en finançant les projets de développement dans les bassins du Congo. La société civile locale et certains opérateurs économiques encore épargnés par la crise se sont dit prêts à investir dans les projets de compensation qui seront développés dans le bassin du Congo. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Politique en RDC maintenant. Pour la première fois, Moïse Katumbi, l'opposant congolais en exil depuis plus d'un an, a rencontré et parlé avec certains Congolais de l'est de son pays, mais dans un état voisin, le Rwanda. M. Katumbi les a rencontrés à Kigali, où il avait été invité à la cérémonie de remise du prix Mo Ibrahim, décerné cette année à l'ancienne présidente du Liberia, Ellen Johnson. Moïse Katumbi s'est voulu rassurant à cette occasion et il a promis aux Congolais qui ont fait le déplacement pour venir l'écouter qu'il reviendra en RDC. De Kigali, le compte-rendu de Charlie Kasereka.
Des délégations composées des étudiants, des fanatiques de l'équipe de Mazembe, ainsi que des membres des partis politiques de l'opposition qui composent la plateforme électorale dénommée Ensemble, créée récemment par Moïse Katumbi. Devant cette foule, le candidat déclaré à la présidentielle a rassuré sur son retour en RDC dans les prochains jours, selon lui, pour déposer sa candidature aux élections prévues en décembre 2018. Je demande combien veulent que je puisse rentrer au pays, qu'ils puissent se manifester. Réunis dans l'amphithéâtre de la paroisse Saint-Paul de Kigali, au moment des questions-réponses, une dame venue d'Ouvira, à plus de 200 km de Kigali, pose sa question à Katumbi. Tu n'as pas peur qu'à ton retour au pays, tu sois arrêté et mis en prison? Katumbi répond en disant, je n'ai pas peur de ça. Ceux qui sont au pouvoir préparent cette manœuvre parce qu'ils ont peur de ma personne. Mais je sais que vous, les peuples, vous êtes plus forts qu'eux et vous allez me soutenir. Dans cette ambiance qui ressemble à une pré-campagne électorale, Katumbi, une fois élu, promet d'installer son quartier général à l'est de la RDC pour en finir avec la guerre dans cette partie, selon ses propres dires, dans 90 jours. En exil depuis plus d'une année maintenant, l'opposant Katumbi se trouve au Rwanda où il est invité au forum Mo Ibrahim. Cette année, c'est l'ex-présidente de Liberia, Ellen Johnson, qui a reçu ses prix après avoir cédé démocratiquement les pouvoirs à l'ex-footballeur George Weah. Charlie Kasereka des retours de Kigali pour VOA Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. www.voaafrica.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.